On est de retour aux amateurs de sport en compagnie de Danny Dubé. Ce qui est le fun dans le monde du sport, c'est que généralement, on a des réponses, là, et c'est pas aussi long qu'aux élections. Ça prend pas 4 ans, des fois, pour avoir une réponse. On se prononce sur quelque chose, comme par exemple, la philosophie all-in. Est-ce que c'est ça, la nouvelle tendance?
Si la tendance se maintient?
Ouais. Pas sûr.
Pas sûr.
Les Blue Jackets de Columbus. Bonsoir, Danny.
Bonsoir, Mario.
De Columbus, je dis. Les Blue Jackets de Columbus éliminés.
Columbus sans but.
Oui. Elle m'a dit une affaire. J'avais jamais entendu ce building-là aussi silencieux qu'après le match. Et dans les dernières minutes de la troisième période.
En tout cas, on a entendu plus souvent le poteau que le canon.
Hey, incroyable la quantité de poteaux qu'ils ont frappés.
C'est incroyable.
Donc, ils peuvent pas se dire on a mal joué tant on a manqué des chances de marquer. C'est incroyable du côté de Columbus.
Ouais. Moi, je commencerai en disant qu'il y a 2 joueurs qui ont manqué un rendez-vous par rapport à leurs attentes contractuelles. Moi, je pense pas que Bobrovsky a démontré que c'était un gardien de but de classe supérieure, donc élite. Il a démontré que c'était un excellent gardien de but en série, mais de la façon dont il a joué durant ce match-là, pour moi...
Il en a laissé passer un mauvais, le deuxième.
C'est ça. Puis même le premier, ça y passe à travers le corps, comme le dit l'expression. Alors nous, on regarde ça de l'extérieur, on se dit, oui, il va trouver preneur. Bien sûr qu'il va avoir beaucoup d'argent, mais attention. Tu sais, Rask a été meilleur que lui. Rask l'a surclassé. Vraiment, là. Pas juste hier soir, mais dans toute la série. Et moi, je pense que ça envoie quand même un message aux dirigeants qui veulent à tout prix un gardien de haut niveau, en se disant oui, mais il faut quand même se garder une petite gêne. À l'inverse, c'est une équipe qui n'a pas marqué, qui a pas donné de marge de manœuvre à Bobrovsky dans ce match-là. Quand tu perds 3-0, écoute, si ça vaut pour Price, ça vaut pour lui. J'ai toujours dit, à un moment donné, donne-y un but, là, aide-le. Après ça, s'il l'échappe, là, c'est un autre dossier.
Alors, rendez-vous manqué pour qui aussi, Danny, chez Panarin. Les Blue Jackets? Panarin?
Oui, Panarin a pas été à la hauteur des joueurs contre qui il est confronté. Si tu prends un parallèle, Pasternak l'a surclassé. Peut-être que Pasternak est mieux entouré. Ça se débat, ça se défend, bien sûr, parce que je pense que l'âme de cette équipe-là en attaque, puis tout ça, c'est Marchand. Et la combinaison...
Avec Patrice Bergeron.
Avec Patrice Bergeron. Mais cette année, c'est vraiment l'année de Marchand. Alors, donc, ces gars-là, sans faire leur procès, des très bons joueurs, mais je pense, lui, Matt Duchesne également, c'est des joueurs qui sont à leur place lorsqu'ils sont sur la deuxième portion des 6 premiers attaquants. Pas sur la première portion. En d'autres mots, les Anglais appellent ça les go-to-guys ou les game-breakers. Moi, je pense que ces gars-là, c'est des super joueurs, là. Puis écoute, est-ce que je prendrais Panarin dans mon équipe? Oui, mais je pense que l'argent qu'il va demander, les conditions qu'il va demander, le place dans la catégorie des joueurs qui doivent faire la différence, puis je pense qu'il y a seulement certaines équipes, quelques équipes, qui pourront se permettre un joueur comme lui parce qu'ils ont de l'argent, un, et parce qu'ils ont des joueurs de centre élite qui peuvent jouer avec lui. On parlait pas de la Floride avant, on parlait de New York pour Panarin. Là, tout d'un coup, ce serait les Panthers, Kenville, tout ça, tu sais, viendrait peser dans la balance. Écoute, s'il s'en va là avec la ligne de centre qu'ils ont, lui, il est en business, là. Là, c'est sûr qu'il va chaîner. Là, c'est sûr qu'il va briller. Il va être au-dessus de la mêlée. Parce que le jumelage va être adéquat.
Et quel bilan peut-on faire donc des décisions prises par l'état-major des Blue Jackets de Columbus d'y aller all-in et de prendre le risque plutôt que de perdre 2 joueurs autonomes sans quand même tenter l'aventure jusqu'au bout? En plus de ça, ils ont décidé d'aller chercher d'autres joueurs autonomes qui étaient en fin de contrat. De là, l'expression all-in. Et là, il y en a beaucoup qui se sont emballés en tentant pour faire mal paraître peut-être des équipes qui étaient plus timides ou plus prudentes de dire, hey, vous voyez, c'est ça la nouvelle façon d'agir dans la Ligue nationale. Ben, alors, quel est le verdict? Est-ce que c'est tant que ça la nouvelle façon d'agir dans la Ligue nationale?
Ben, écoute, c'est un contexte très particulier. Il faut remettre les choses en perspective puis reculer. Il faut reculer 1 ou 2 mois avant la fin de la saison, la période de transaction. Et là, tu te dis, toi, t'es dans la peau des dirigeants des Blue Jackets. Tu sais que Panarin et Bobrovsky vont tester le marché. Donc, tu vas les perdre. Là, t'as le choix. Tes échanges, sacrilège, parce que l'équipe a une chance de participer aux séries. Une équipe qui participe pas souvent d'ailleurs aux séries en 18 ans d'existence, 3-4 fois. 3 fois.
4 fois.
Avec cette année, 4 fois. Donc là, tu te dis, est-ce qu'il y avait vraiment le choix? Il y avait le choix. Mais moi, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est un peu, pour leur public qu'ils l'ont fait. À un moment donné, tu te dis, on a une chance, par respect pour notre public, notre organisation, c'est le temps d'y aller. On a une opportunité, la fameuse fenêtre. On en a une fenêtre. Il faut l'exploiter. Si on ne l'exploite pas...
On est des chicken.
Puis on recule. On recule. C'est beau de dire, là, ils n'ont pas passé.
Mais ben, il y a matière à discussion quand même. Ben parce oui. qu'ils ont fait ça pour les fans. Ça, c'est la raison noble de le cautionner. Mais peut-être que John Davidson, s'il s'en va diriger Rangers de New York, il a fait ça pour lui un peu aussi.
Ah, ben là, écoute, c'est un très bon point.
Peut-être que John Tortorella, qui avait beaucoup approuvé avec un alignement comme ça aussi, quand il participait au meeting, je sais pas s'il pensait tant que ça aux fans puis aux prochaines années, ou s'il pensait un petit peu à lui puis à sa gloriole. Tu sais, alors, j'ai du mal, maintenant qu'on a le résultat d'en face, à penser que finalement, finalement, oui, c'était correct parce qu'il y avait menace de rompre le lien émotif avec les partisans. C'est important que tu montres à tes partisans que tu as confiance en ce que tu fais. Oui. Et on verra peut-être donc que le verdict final viendra selon le nombre de ces joueurs autonomes-là qui seront capables de retenir avec l'organisation.
Oui, entre autres. Puis l'autre aspect, Mario, c'est de se demander, bon, ben là, est-ce qu'on a des garanties de toute façon si on les échange, ces gars-là? Si on fait cette on les laisse partir, est-ce qu'on a une garantie que de reculer va mieux nous faire bondir en avant? On le sait que c'est non, la réponse. On sait que dans cette ligue-là, à cause de la parité, à cause des multiples facteurs, blessures, etc., que ça devient extrêmement difficile de demeurer compétitif à un certain niveau, à moins d'avoir des super vedettes dans ton noyau dur. Ce qui n'était pas le cas des Blue Jackets, évidemment. Puis ce qui n'est pas le cas non plus de bien des équipes. Alors, ce privilège-là, tu regardes les équipes qui sont fortes depuis plusieurs années. Ils ont des joueurs dominants depuis plusieurs années au cœur de leur noyau. Puis c'est ça qui fait qu'ils sont capables de les entourer, d'intégrer des nouveaux joueurs, etc. Mais ça, c'est un privilège ultime. C'est pas toutes les formations qui ont ça. Puis là, ben, même si tu descends avec la loterie, avec le côté aléatoire du repêchage amateur, des garanties, t'en as pas beaucoup.
Non, t'as pas beaucoup de garanties. Puis ça peut nous amener dans beaucoup, beaucoup de directions de discussion. Mais juste pour clore sur le dossier des joueurs autonomes, s'ils devaient perdre tous ces joueurs autonomes-là, le prêt à payer pour leur audace et le risque qu'ils ont pris d'y aller all-in, ils risquent de le payer cher. Et là, ben, on va, comme quand on analyse une transaction sur plusieurs années, Weber, Subban, Johansson avec Seth Jones et compagnie, dans 5 ans, on va peut-être jeter un regard différent sur les décisions prises là. Mais ce que t'as envie de souligner, puis je l'entends aussi, puis je suis pas insensible à ça, c'est que des plans, là, tu sais, on parle souvent de plans quinquennaux dans le monde du hockey. Je pense que t'es moins all-in là-dessus maintenant,
c'est sûr.
Il y a plus ici et maintenant, je pense, le sentiment d'urgence à quelque part.
Absolument. Puis
mais c'est pas ça qu'ils nous vendent, les dirigeants, parce qu'eux autres, ils achètent du temps tout le temps.
Ben, c'est correct aussi. Ils ont le privilège d'avoir le contrôle sur ce qu'ils font. Ça leur appartient. Nous, on est de l'autre côté. Il y a une réunion, là, la porte est fermée, on n'entend pas ce qui se passe en réunion.
Nous
autres, on regarde le produit fini. Puis là, on regarde le produit fini, puis on dit, OK, bon, là, 96 points cette année, wow, tout le monde est content. Mais l'an prochain, il n'y a pas de garantie que ça va être 96 points. Il y a zéro garantie. Par contre, quand tu avances, tu es toujours en mesure de voir ce qui te manque. Quand tu recules, c'est difficile de voir ce qui te manque, parce qu'il te manque beaucoup plus d'affaires quand tu recules. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'évaluer des joueurs dans une mauvaise équipe ou dans une équipe qui a une mauvaise saison.
Ouais,
des fois, c'est pas toujours une mauvaise équipe, mais une équipe qui a une mauvaise saison. C'est difficile d'évaluer des joueurs. Puis là, ça devient extrêmement dangereux. C'est périlleux. Là, l'émotion peut prendre le dessus. Tu laisses aller des joueurs, puis là, ces joueurs-là s'en vont ailleurs, puis ils continuent de produire, puis toi, ben, tu te retrouves à tourner en rond. Donc moi,
si Columbus se retourne en dehors des séries pour quelques saisons, on verra. Peut-être qu'ils vont les faire plusieurs années consécutives.
Ouais,
mais s'ils devaient retourner en dehors des séries pendant quelques années, tu penses à des organisations qui participent aux séries presque à chaque année, à une exception près peut-être d'un 10, 15 dernières. Je pense à San Jose.
Ouais.
Je pense à Washington, là, qui sont éliminés, mais qui ont finalement gagné la Coupe, mais qui ont participé aux séries de façon consécutive de pendant plusieurs années. Donc, eux autres, la fenêtre était ouverte, puis était ouverte pendant une décennie.
Elle
était encore ouverte. Tandis que Columbus, exemple, si Montréal, on est dans une couple d'années qu'on pense pas faire des séries. Si cette année, il avait décidé de dire, hey, on mise le tout pour le tout, c'est ça qu'il a pas voulu faire. Puis
non.
Je défends pas la politique de Bergevin, mais Columbus, ça se pourrait qu'eux autres, ils aient senti que c'était le moment, mais ça va coûter cher, peut-être. Ils n'ont pas beaucoup de choix au repêchage l'an prochain.
Non.
J'ai très hâte de voir ce que l'avenir va nous dire au sujet de cette façon d'agir-là.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je veux dire, tu regardes des équipes qui n'ont même pas participé aux séries l'an passé ou que des équipes qui sortent de nulle part. Puis j'ai en tête, bien sûr, les Hurricanes de la Caroline. Ben, Tu sais, eux autres, ils se disent, là, peut-être qu'ils ont deux, trois bons jeunes dans leur système. Peut-être qu'ils se disent, on a un ou deux trous à colmater, un ou deux brèches à colmater. Puis on va avoir une équipe très respectable parce qu'on a Werenski, parce qu'on a Seth Jones, parce qu'on a Savard à la défense, Dubois en attaque. On va être pas si pire. Tu sais, on va être dans le péril. On n'est pas tellement en péril. On aimerait mieux garder ces joueurs-là, c'est sûr. Mais le cas échéant, si on perd ces bonhommes-là, moi, je pense que Dezingle va signer avec eux. C'est un très bon joueur. C'est pas une vedette, mais c'est un bon joueur de hockey. C'est un gars qui est capable de... Alors, écoute, pour eux, ce sera un défi. Ce sera aussi l'appel aux partisans. Je pense en disant, tu sais, soyez avec nous. Tu sais, l'aventure continue. Il y a différentes façons de le présenter. Puis moi, écoute, personnellement, là, je pense qu'il faut regarder toujours l'avant-décision plutôt que le résultat. Il faut se faire la genèse des événements, puis après ça, ben là, c'est sûr, il y a le résultat. Ils ont manqué leur coup, si tu veux. Ils ont manqué leur coup, c'est tout. Puis, c'est comme ça, le sport.
C'est-tu de la faute de l'arbitre? Est-ce que McAvoy méritait un 5 minutes pour coup à la tête sur Anderson?
Pour moi, c'est un 5 minutes. Moi, là, je trouve un peu ridicule la pénalité de 2 minutes pour coup à la tête. Tu sais, là, franchement, celle-là, là, c'est mi-figue, mi-raisin. Fait assez longtemps qu'on dit que les coups à la tête devraient être proscrits. Denzi, un 5. Mm-hmm. Il a pogné à la tête, c'était un 5. Arrêtons de... Tu sais, là, puis on part avec ça. Là, il n'y aurait pas eu de zone grise. Là, il l'a frappé, mais... Écoute, le gars, premièrement, il y a un joueur à sa poursuite. Donc, dans ce temps-là, tu es vulnérable. On dit que si le joueur vient pour frapper un joueur qui est vulnérable, il doit ralentir sa course, s'assurer d'avoir un contact corps à corps, parce que lui, il est vulnérable. Ça se peut que tu le frappes à la tête, ça se peut qu'il tourne, ça se peut que... Tout ça, c'est là, c'est dans le règlement, là. Il a tout fait le contraire, là. Puis il y a eu un 2 minutes. Hey, come on. T'sais, soyons sérieux, là.
Mm-hmm, mm-hmm. Puis, alors, si tu compares ça aux 5 minutes à Eakin dans la série San Jose et Las Vegas.
Très, très bon exemple. T'sais, alors, moi, je pense que McAvoy méritait un 5 minutes. Puis, bon, est-ce que le résultat aurait été différent? Écoute, il comptait pas de but, là, Blue Jackets. Mais au moins, il aurait contrôlé l'adversaire pendant ce temps-là. Puis, on aurait pu peut-être revisiter tout ça aujourd'hui en se disant, ben, sais-tu quoi, McAvoy a pris une méchante mauvaise pénalité.
Mm-hmm.
Tu sais, mais là, on peut pas parler comme ça. On est obligé de prendre ça différemment puis dire, ben, regarde, c'est la vie, tu sais.
Finale de conférence, Bruins-Caroline. On va voir comment ça va se passer dans l'Ouest puisque l'Avalanche du Colorado a provoqué la tenue d'un 7e match hier. Et puis, on va voir également ce que ça donne du côté de Saint-Louis-Dallas, match numéro 7. Ça va être quoi la finale de conférence, l'autre bord, mon cher Danny?
Ben, moi, je pense que le Colorado place vraiment la barre très, très haute. Mais, ultimement, l'équipe la plus expérimentée, tout ça...
Ça devrait être les Sharks.
Alors, on devrait voir, là... À la fin de tout ça, on devrait voir les Sharks.
Oui.
Contre les Bruins de Boston.
Contre les Bruins de Boston.
Oui.
Puis Saint-Louis-Dallas, tu tirais ça à pile ou face ou?
Non, je pense que Dallas est placé dans, Dallas est placé dans une position extrêmement vulnérable parce que eux autres, ils avaient des câbles.
Oui.
Alors.
Mais ça va être San Jose ultimement au bout de la run.
Ça ne
changera pas grand-chose.
Quelques
matchs locaux de plus, quelques millions de plus en revenus pour l'équipe qui gagnera le match de ce soir, si tu ne les vois pas éventuellement en finale de conférence. Eh bien, en finale de Coupe Stanley. Danny, je te remercie beaucoup. Et puis, as-tu entendu parler de la rumeur que Subban pourrait aller rejoindre Michel Therrien à Philadelphie?
Arrête donc, toi.
Ça t'entend?
Non, j'ai pas entendu ça.
Ça serait quand même drôle.
Ah oui, toute une rumeur.
Ça serait intéressant.
Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que initialement, si on recule dans le temps, on entendait que Piquet terminerait pas sa carrière avec Nashville. Puis moi, je pense que c'est ce qui va arriver.
Ouais, je pense que ça se dessine à l'horizon.
Ah, exactement.
Bonne soirée, Danny.
Merci.